France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Trump, Macron clash en Mondovision la nuit dernière. Le président américain menace maintenant les vins français de droits de douane à 200%. Le président français lui propose un sommet à Paris avec la Russie. On y revient dès le début de ce 13-14. Des milliers d'agriculteurs à Strasbourg ce matin contre le traité avec le Mercosur. Nous y serons. Le procès en appel des assistants parlementaires du Front National. Marine Le Pen à la barre cet après-midi et ce matin un nouveau prévenu en difficulté. Nous appellerons Charlotte Piret. À suivre encore l'histoire de cette Bretonne adoptée en Éthiopie dans les années 90 et qui découvre que ses parents biologiques sont vivants. Les clés des municipales, notre rendez-vous chaque semaine. Aujourd'hui, combien gagnent nos maires? Ce sera avec Maxence Lambrec. À partir de 13h30, la crise du logement dans les zones touristiques. Deux communes ont trouvé des solutions, Oléron et Saint-Malo. On en parle avec nos invités et avec vous. J'attends vos questions, vos témoignages également. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France, la mode des mini-forêts. Tendance décryptée par Cyril Petit du journal Ouest France. Juste avant 14h, c'est une chanson. Le tromboniste Daniel Zimmermann demande Serge Gainsbourg, les amours perdus.
En fait, au moment de ma première rupture, j'étais très malheureux. Je me suis dit que j'allais sublimer mon malheur en écoutant de la musique triste et je l'ai écouté un petit peu en boucle. Et voilà, c'était une espèce de flagellation. J'avais l'impression d'aller au bout du truc.
Ce sera avec Frédéric Pommier. Et puis nous écouterons dans une vingtaine de minutes l'explorateur Jean-Louis Étienne qui ce matin, à l'âge de 80 ans, a repris la mer dans le Grand Sud. Un exemple.
Je dis aux enfants, votre envie de quelque chose, hein, votre histoire, c'est le capital. Mais l'envie, ça ne veut pas dire que c'est facile. Il faut la cultiver, il faut la travailler. Du temps, du travail, de la persévérance.
Persévérance, c'est précisément le nom de sa mission. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Fini la diplomatie en coulisses avec Donald Trump. Depuis un an, le président américain l'a transformé en show aux yeux du monde. On se souvient de l'humiliation de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, devant les caméras à la Maison-Blanche. Dernier exemple en date, ce qui s'est passé la nuit dernière entre Trump et Emmanuel Macron. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour Jérôme.
Frédéric, vous êtes en direct de Davos, en Suisse, où se tient le forum économique, où le président français s'exprimera cet après-midi avant l'américain demain. Racontez-nous cette nuit faite de menaces et d'explications de textes.
Eh bien écoutez, tout part de l'invitation de Donald Trump lancée à plusieurs pays pour rejoindre son Board of Peace. C'est cet organe pour la paix au Proche-Orient, organe au contour encore imprécis et dirigé par le président américain lui-même. Hier, la France annonce qu'elle refuse l'invitation car elle craint que cette initiative ne sape les compétences des Nations Unies. Alors ce refus d'Emmanuel Macron est rapporté hier soir par un journaliste à Donald Trump, colère du président américain.
S'il refuse, j'imposerai des droits de douane de 200% sur ses vins et ses champagnes et il adhérera. Mais comme vous le savez, il ne sera plus en fonction dans quelques mois.
Et la vengeance ne s'arrête pas là. Quelques heures plus tard, Donald Trump publie la capture d'un SMS d'Emmanuel Macron. Le SMS commence par « My friend », »,« mon ami ». Il évoque la Syrie et l'Iran. Mais surtout, Emmanuel Macron écrit cette phrase « Je ne comprends pas ce que tu fais sur le Groenland ». Dans ce SMS, le chef de l'État propose aussi à Donald Trump de venir ce jeudi à Paris pour un sommet exceptionnel du G7, auquel, est-il écrit, seraient aussi conviés à la marge, je cite, les Ukrainiens, les Syriens, mais aussi les Russes.
Qu'en dit l'Élysée aujourd'hui, Frédéric? Et surtout, alors vous nous parlez des Russes, est-ce que cette histoire de sommet avec les Russes est confirmée? Ce serait une première depuis le début de la guerre en Ukraine.
Alors ce matin, l'Élysée tente de faire bonne figure. Oui, ce SMS est authentique, admet l'entourage d'Emmanuel Macron ici à Davos. Et ce message prouve, je cite, que le président français défend la même ligne en public et en privé, allusion à la phrase assez sèche d'Emmanuel Macron sur le Groenland. En revanche, l'Élysée se fait très discret sur cette hypothétique proposition de G7 à Paris. Elle n'est ni démentie ni confirmée. La présidence française du G7 doit être un moment utile. Voilà ce que se borne à dire un proche du président qui prend bien soin de n'évoquer ni de près ni de loin cette suggestion d'inviter des émissaires russes.
Merci Frédéric Seyss à Davos avec les moyens techniques de Julien Girard. Deux réactions à ces déclarations ce matin. En Suisse, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui promet une réponse ferme à ces menaces. Fin de citation. Et puis Moscou qui ne confirme pas une invitation à un éventuel sommet en fin de semaine à Paris. Alors derrière ces échanges, qui peuvent relever de la mise en scène, il y a la réalité de l'économie. Les États-Unis étaient en 2024 le deuxième client de la France pour les échanges de biens. 200% de droits de douane sur les vins et champagnes. Voilà ce qu'en dit Jérôme Bauer, président de la Confédération nationale des producteurs de vins en AOC.
On parle en milliards d'euros, évidemment. La problématique, c'est toujours difficile à estimer, mais du 200%, ce serait quasiment l'arrêt total des exportations vers les États-Unis. Le taux de change est extrêmement défavorable à l'euro aujourd'hui. Le transport a beaucoup augmenté. Si on rajoute encore 200% de taxes, c'est même plus la peine d'envisager d'exporter du vin aux États-Unis. Donc, ça peut pas continuer comme ça. Au bout d'un moment, il faut que la France arrête de s'exposer systématiquement. On est européen avant tout et c'est à l'Europe de prendre le lead dans ces discussions. Donc, j'ai vu que le président Macron a invité un G7. Moi, je pense que c'est une erreur d'exposer la France parce qu'évidemment, les représailles iront vers nous qui sommes systématiquement otages de ces conflits.
Jérôme Bauer au téléphone de Jérôme Chapuis. Le marché américain qui se referme, on vient de le voir. L'Union européenne voit dans l'Amérique du Sud un débouché pour ses produits, d'où l'accord de libre-échange signé samedi avec le Mercosur. Il faut maintenant que les députés européens le valident pour qu'il soit appliqué. Mais avant cela, ces députés voteront demain sur la question de savoir s'ils saisissent ou non la Cour de justice européenne qui, elle, pourrait bloquer ce texte. Alors, pour mettre la pression aux eurodéputés, les agriculteurs européens qui sont opposés au texte se sont donné rendez-vous ce matin à Strasbourg. Bonjour Lou Bourdi.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes sur place, on l'entend derrière vous, les tracteurs viennent d'arriver, les agriculteurs sont plusieurs milliers.
Oui, les tracteurs défilent devant nos yeux, vous l'entendez avec le bruit des klaxons, ça ne s'arrête plus. Près de 700 tracteurs qui arrivent devant le Parlement européen, ils rejoignent les milliers de manifestants arrivés sur place dans la matinée. Eux sont arrivés à Strasbourg en car. Ils viennent de Belgique, de Pologne, de Roumanie. On entend aussi beaucoup parler italien autour de nous. Et puis des jeunes, beaucoup de jeunes agriculteurs français venus se mobiliser. L'accord du Mercosur leur fait peur.
Si l'accord du Mercosur est passé, ça veut dire que nous, on n'aura pas d'avenir. On se dit d'ici 2 ans, on est lâchés dans la nature. On nous dit, démerdez-vous. Et si l'accord du Mercosur est passé, autant qu'on se reconvertisse et qu'on fasse autre chose.
Notre rêve, pour certains, c'est notre rêve de gamin. D'avoir notre ferme à notre nom et de pouvoir nourrir la population. Et nous, on veut rester ici toute la journée et toute l'année, s'il le faut, on lâchera pas, quoi.
Ouais, tous ici espèrent une seule chose, faire pression sur les eurodéputés parce que demain, ils doivent voter pour ou contre la saisine de la Cour européenne de justice, ce qui pourrait geler la mise en place de l'accord. C'est ce qu'espère cette productrice de lait. Elle vient de Bretagne.
Peu importe, c'est le lait, la viande ou les céréales. C'est tout en fait, c'est le principe. Si on commence à ouvrir la porte comme ça, alors que les autres pays mondiaux prennent des décisions pour protéger leur agriculture, nous, l'Union européenne, elle fait totalement l'inverse. J'espère qu'on va réussir à convaincre les eurodéputés qu'il faut voter pour leur agriculture.
Mais oui, dans la foule juste devant nous, dans la foule des fumigènes et une immense affiche avec le visage d'Ursula von der Leyen dessus, avec marqué « Ursula, go home, rentre à la maison ». Sachez qu'ici, une grande partie des agriculteurs compte dormir ce soir devant le Parlement, et ce, malgré le froid.
Lou Bourdi, en direct avec les moyens techniques de Jérémy Tulle, en direct de Strasbourg, où sera ce soir Fabienne Sintès et toute son équipe pour un 18-20 spécial. Et comme un symbole de cette nouvelle donne internationale que je viens de vous raconter, et de l'impuissance des Nations Unies, ces images ce matin en provenance de Jérusalem-Est, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, détruite au bulldozer par les forces israéliennes. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Que s'est-il passé ?
Eh bien, ces bulldozers israéliens, vous l'avez dit, qui depuis très tôt ce matin détruisent donc méthodiquement ce QG de l'UNRWA. Et le premier arrivé sur place pour se réjouir, eh bien, c'est le ministre de la Sécurité intérieure, le suprémaciste d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir.
C'est un jour historique. Pendant des années, ces partisans du terrorisme étaient ici. Et aujourd'hui, ils sont expulsés.
Le gouvernement de l'État hébreu accuse des employés de l'UNRWA d'avoir collaboré avec le Hamas lors du massacre du 7 octobre 2023. Depuis, deux lois interdisent la présence de l'agence de l'ONU sur le territoire israélien, dont Jérusalem-Est. Samuel est lui venu en voisin et comme Itamar Ben-Gvir, il est satisfait.
C'est l'effervescence. Je suis aussi américain et on sait que beaucoup d'organisations corrompues travaillent ici. Les États-Unis ont créé les Nations Unies, qui est aujourd'hui utilisée contre Israël.
Israël qui a donc bafoué ce matin le droit international en entrant dans des locaux qui bénéficient d'une inviolabilité et qui ne peuvent donc pas être perquisitionnés, encore moins détruits. Jonathan Fowler est le porte-parole de l'UNRWA.
C'est une atteinte sans précédent contre une agence des Nations Unies et du droit international. Et un risque si les États membres des Nations Unies ne répondent pas, que ça va s'empirer.
Israël est évidemment membre de l'ONU et selon la plus haute juridiction des Nations Unies, l'État hébreu a l'obligation de protéger l'UNRWA.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter, en direct de Jérusalem. Et comme dans toute recomposition, il y a des gagnants et des perdants. Les Kurdes sont dans cette dernière catégorie, ce peuple sans État qui vit en Irak, en Turquie, en Iran, mais aussi en Syrie. Les Kurdes de Syrie ont été défaits militairement par la nouvelle armée syrienne ce week-end. Ils ont dû rendre les territoires qu'ils occupaient dans le nord-est du pays. Hier soir, les Kurdes d'Istanbul ont manifesté pour les soutenir. Et un journaliste français, Raphaël Boukandoura, qui suivait ce rassemblement, a été interpellé. Louise Alluin, directrice projet réponse aux urgences à Reporters sans frontières, appelle à sa libération.
Il a été interpellé en marge d'une manifestation qui a eu lieu hier à Istanbul. Par ailleurs, il déclare avoir subi des mauvais traitements pendant cette arrestation, avec plusieurs heures sans voir ses avocats et de la brutalité. Ça, c'est par ailleurs inacceptable. Et par ailleurs, il faisait son travail de journaliste pour lequel il est hors de question de pouvoir être arrêté dans ces conditions.
Il a pu voir ses avocats ou pas ?
Oui, il a pu voir ses avocats. Ça a été tardif. Ça a été une attente longue avant de pouvoir les voir, mais c'est chose faite.
Louise Alluin au téléphone de Christian Chesneau. Une attaque russe de grande ampleur la nuit dernière sur Kiev. Conséquence, plus de 5600 immeubles résidentiels à nouveau privés de chauffage dans la capitale ukrainienne par des températures de moins 14 degrés. Une vaste partie de la ville est par ailleurs privée d'eau du robinet, indique également son maire. En Andalousie, à Adamus, le roi et la reine d'Espagne viennent d'arriver sur les lieux de l'accident de train qui a fait au moins 41 morts. Dimanche, un train à grande vitesse en a percuté un autre qui avait en partie déraillé. Un deuil national de 3 jours a débuté ce matin. Mais toujours pas d'explication officielle sur les causes de cette collision, même si certaines pistes sont mises de côté. Notre journaliste Henri Delaguerie est sur place.
L'erreur humaine est écartée, le sabotage aussi, il ne s'agit pas non plus d'un excès de vitesse et puis le train Irio avait été inspecté 4 jours avant l'accident. Alors l'enquête s'oriente vers la rupture d'une soudure entre deux rails, une hypothèse alimentée par la photo qui circule d'un rail sur le lieu de l'accident qui présente une coupure de 30 cm. Mais Oscar Puente, ministre des Transports, appelle à la prudence.
Cette thèse n'est qu'une spéculation de plus. Il y a eu une rupture de voie, c'est évident, mais il faudra déterminer si c'est la cause ou la conséquence du déraillement.
Le réseau ferroviaire est mis à rude épreuve depuis l'arrivée en Espagne des Ouigo de la SNCF et des Irio de Trenitalia sur le couloir andalou. Le trafic a augmenté de 30 à 40% en 3 ans seulement. Teresa Via Damus, près de la ligne à grande vitesse.
Il y a beaucoup plus de trains qu'au début de la grande vitesse dans les années 90. Il y en a à n'importe quelle heure. Parfois, le trajet ne coûte que 10 ou 15 euros. Et donc, aujourd'hui, on a un train qui passe ici, sur la même voie, toutes les 5 minutes.
Le réseau est-il suffisamment entretenu ? C'est la question qui se pose ici et qui inquiète dans un pays, l'Espagne, qui dispose du plus grand réseau à grande vitesse d'Europe.
Reportage en Andalousie, Henri Delaguerie.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Au palais de justice de Paris, les responsables du Rassemblement national se succèdent à la barre, soupçonnés de détournement de fonds publics. C'est l'affaire des assistants d'eurodéputés du FN qui est jugée en appel. Cet après-midi, Marine Le Pen, condamnée en première instance, sera entendue et on va y venir. Mais avant elle, ce matin, c'était le député Julien Odoul, à l'époque assistant parlementaire, qui répondait aux questions des juges. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Charlotte, vous suivez ce procès pour Inter. Julien Odoul a eu bien du mal à se justifier.
Je regrette infiniment cette période. J'aurais aimé avoir la présence d'esprit et la force de caractère pour mettre un terme à ce contrat problématique. Voilà pour le message que Julien Odoul a tenu à passer à la Cour en guise de contrat problématique. Donc, 10 mois comme assistant parlementaire de l'eurodéputé fraîchement élu, Mylène Trozinski, qui n'a alors aucune tâche à lui confier et lui conseille plutôt de se rendre utile au siège du parti. Si elle m'avait donné du travail, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, tente le député en guise de défense, plaidant l'ignorance l'enfance du jeune homme avide de politique qu'il était alors. Mais il en faut plus à la présidente qu'une reconnaissance de la matérialité des faits. Trop facile, rétorque-t-elle, de rejeter la responsabilité sur celle qui n'a pas fait appel. Tout ça ne vous a pas questionné ? Je reconnais que j'ai été négligent, poursuit encore le prévenu. Oh, ce n'est pas de la négligence, reprend la présidente du tac au tac. On ne peut pas dire ça, pas dans une enceinte de justice.
Charlotte, cela donne le ton de l'interrogatoire de Marine Le Pen cet après-midi ?
Oui, car on a vu cette présidente, Michèle Agy, resserrer l'étau question après question et pousser les prévenus dans leur retranchement, principalement sur cette question de l'intention ou de la conscience qu'ils réfutent tous d'avoir eu à l'époque de commettre un délit. Une ligne de défense pour le moins ténue qu'a impulsée Marine Le Pen et qu'elle va devoir tenir pendant la journée et demie qu'elle s'apprête à passer à la barre. Ce matin, on a vu Marine Le Pen attentive à l'audience, prendre des notes, consulter des documents. Elle, dont le tribunal, dans son jugement de première instance, a estimé qu'elle a pris la tête avec autorité et détermination d'un véritable système organisé pour permettre aux partis de faire des économies.
Charlotte Piret en direct du Palais de Justice de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir mis le feu à un collège de Dijon le mois dernier. 5 personnes interpellées ce matin, 4 mineurs âgés de 15 à 17 ans et une femme de 27 ans. Ils ont été retrouvés à la suite de l'exploitation de la vidéosurveillance et des traces ADN, explique le procureur. Leur profil, dit-il, tend à confirmer l'hypothèse d'un lien avec le trafic de drogue. Qu'est-il arrivé la semaine dernière à Paris à un Mauritanien de 35 ans. El Hassan Diarra, il est mort au commissariat du 20e arrondissement de la capitale après son interpellation et image à l'appui, sa famille dénonce des violences policières. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Le parquet de Paris vient d'ouvrir une information judiciaire pour violences volontaires ayant entraîné la mort.
Selon la première version des policiers, ils avaient contrôlé El Hassan Diarra devant son foyer pour migrants après l'avoir vu rouler un joint de cannabis, puis l'avait placé en garde à vue pour usage de faux documents et détention d'un produit stupéfiant et rébellion. Le suspect, lui, s'est effondré sur sa chaise en pleine garde à vue. Il a commencé à s'uriner dessus. Au vu des premiers éléments d'enquête, effectivement, une courte vidéo où deux policiers portent des coups à un suspect à terre. La procureure de Paris a saisi une juge d'instruction pour violence volontaire ayant entraîné la mort, estimant que l'autopsie n'était pas concluante. Yacine Bouzrou est l'avocat de la famille d'El Hassan Diarra et pour lui, l'autopsie, au contraire, en dit déjà beaucoup de ce qui s'est passé.
L'autopsie révèle une fracture du cartilage thyroïde. C'est une lésion caractéristique d'un étranglement. Donc cela corrobore ce qu'on a pu voir sur la vidéo, une vidéo accablante, où on voit M. El Hassan Diarra, le défunt, dire aux policiers « vous m'étranglez ». Alors qu'il est maîtrisé, il y avait une mare de sang au sol.
Selon nos informations, le légiste n'a pas conclu à une strangulation, qu'il n'y a aucun, je cite, « écrasement des tissus qui en aurait résulté », que la fracture de la thyroïde a pu avoir lieu lors de l'autopsie. Mais dans tous les cas, il y aura des analyses toxicologiques et anamopathologiques pour déterminer l'origine du décès.
Explication Emmanuel Leclerc. Les enfants de Rennes de Miséricorde. C'était dans les années 90, une association catholique traditionnaliste qui permettait à des familles françaises d'adopter des enfants en Afrique. Mais aujourd'hui, les plaintes contre elles se succèdent pour adoption illégale. Ces enfants auraient été en fait arrachés à leur famille. C'est ce qui est arrivé à Nina, elle a 35 ans aujourd'hui, elle habite dans le Finistère, en Bretagne. Elle croyait ses parents biologiques morts, elle les a retrouvés vivants, l'un en Éthiopie, son pays d'origine, l'autre aux États-Unis. Valérie Lenigène l'a rencontrée.
J'ai porté plainte contre cette association parce que sur mon dossier d'adoption, il y a écrit que mes parents biologiques sont décédés. Et fin de compte, j'ai retrouvé les deux.
Et cette découverte est presque un hasard. Nina a 17 ans lorsque l'association qui a organisé son adoption propose un voyage humanitaire en Éthiopie couplé d'une recherche sur les origines. L'association précise à Nina que pour elle, elle n'a rien trouvé. Mais Nina accompagne une autre adolescente, retrouvée des parents biologiques. Et dans le quartier, le bruit circule, des enfants adoptés sont revenus. Le grand-père et un des oncles de Nina crient alors son prénom.
J'ai eu du mal à y croire et quand ils sont arrivés vers moi, il y avait une photo de moi encore en Éthiopie.
Et qui vous ressemblait ?
C'était moi. Ouais.
Ce jour-là, Nina a retrouvé sa mère biologique et il y a 2 ans, la trace de son père aux États-Unis. Il lui a fallu plusieurs années de reconstruction pour trouver la force de porter plainte.
Je souhaite déjà que les personnes adoptées et les personnes adoptantes connaissent la vérité, que l'adoption internationale dans ce contexte-là soit arrêtée, clairement, que tout le monde guérisse de ce traumatisme. Voilà.
Il y a encore des zones d'ombre dans l'histoire de Nina, sur les conditions dans lesquelles sa grand-mère l'avait momentanément placée pour qu'elle mange à sa faim. Nina a lancé une cagnotte en ligne dans l'espoir de financer un nouveau voyage en Éthiopie.
L'enquête est confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes. L'association, elle, indique ne pas avoir été contactée par la justice. Reportage ici, Bray Zizel. Quand un groupe qui emploie 35 000 personnes en France supprime ne serait-ce qu'une partie de ces postes, cela fait beaucoup de monde concerné. Jusqu'à 2400 postes en moins chez Capgemini, le géant français de l'informatique, l'annonçait ce matin. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
En cause les difficultés dans l'industrie, mais le groupe promet qu'il n'y aura pas de licenciement.
Pas de licenciement, effectivement, insiste la direction de Capgemini, et toutes les filières ne seront pas touchées, mais certains secteurs seront particulièrement concernés. L'automobile en tout premier lieu, un secteur affecté par un ralentissement de l'activité ces dernières années, mais ce sont aussi et surtout les mutations technologiques, dont l'utilisation de plus en plus courante de l'intelligence artificielle, qui oblige le groupe, qui compte, vous l'avez dit, 35 000 salariés en France, à se réorganiser, à s'adapter. Comme Accenture, il y a quelques mois, Capgemini doit faire face à un bouleversement du conseil en informatique, jusqu'ici basé sur la compétence humaine et percuté de plein fouet par l'utilisation de l'IA. Les chiffres avancés évoquent donc jusqu'à 2400 postes supprimés via deux dispositifs. En interne d'abord, avec des parcours de certification pour répondre aux nouveaux besoins de l'entreprise dans le cloud et la data, et en externe via des ruptures conventionnelles collectives avec un accompagnement financier du groupe. Les représentants du personnel ont été informés de ce qui est appelé projet d'adaptation des compétences et des emplois. Mmh. Les détails doivent encore être expliqués avant le début des négociations avec les organisations syndicales.
Merci Agnès Soubiran. La fin est proche pour le feuilleton du budget 2026. Le Premier ministre engage cet après-midi la responsabilité de son gouvernement sur le volet recettes. Recours à l'article 49.3 pour le faire adopter sans vote. Le Rassemblement National et la France Insoumise ont déjà annoncé le dépôt de motion de censure pour renverser le gouvernement. Nous ne censurerons pas, Sébastien Lecornu a expliqué ce matin sur Inter, le patron du Parti Socialiste Olivier Faure, écartant ainsi le risque de chute pour le gouvernement. Au Sénat cet après-midi, c'est le débat sur la fin de vie qui est à l'agenda. Les propositions de loi sur les soins palliatifs et sur l'instauration d'une aide à mourir sont examinées. Et les sénateurs de droite, qui sont majoritaires, ont fait le choix non pas de rejeter l'aide à mourir, mais de réécrire le texte qui avait été voté à l'Assemblée avec des conditions beaucoup plus strictes. Explication Lise Roseveille.
Le Sénat, majoritairement opposé au texte sur la fin de vie, aurait pu le rejeter en bloc. Mais les élus voient bien qu'il y a une demande des citoyens. Le centriste Olivier Henno le ressent.
Il y a quand même dans notre société quelque chose qui a changé. Et même quand on est chrétien, catholique comme je le suis, on le sent bien. Il y a un phénomène qui nous bouscule et qui nous interpelle. Et on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas ça.
Mais les Républicains majoritaires vont restreindre au maximum le texte. Remplacer l'aide à mourir par une assistance médicale à mourir, réservée aux patients en toute fin de vie. Comme beaucoup, Stéphane Le Rudulier craint des dérives.
On va veiller, encore une fois, à ce que l'aide active à mourir, l'euthanasie, soit strictement encadrée. Ça sera vraiment le dernier ressort. Le dernier recours.
Avec son groupe socialiste, Marie-Pierre de la Gontrie compte donc se battre pour défendre l'aide à mourir, revenir au texte de compromis voté à l'Assemblée nationale.
De compromis, ça veut dire qu'il y a certains sujets sur lesquels nous n'allons pas revenir, nous n'allons pas insister. Ce qui compte, c'est que le Sénat joue son rôle, ne soit pas dans une position dogmatique ou raide.
Chaque groupe est d'ailleurs traversé par des questionnements. Le sujet est intime et complexe, même au sein des Républicains. Un sénateur confie, nous sommes très divisés.
Lise Roseveille, notre rendez-vous municipal. Les clés des municipales. Chaque semaine, notre rendez-vous pour comprendre ces élections si importantes pour la vie locale et qui auront lieu dans moins de 2 mois maintenant. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Chef du service politique. Aujourd'hui, Maxence, on parle d'argent. Combien gagnent nos maires ?
900 euros net, c'est le montant de l'indemnité pour les maires des villages de moins de 500 habitants. Indemnité parce que ce n'est pas un salaire, ils exercent un mandat et d'ailleurs une bonne partie d'entre eux ont une autre activité ou une pension de retraite.
Et ils peuvent aussi avoir un autre mandat.
C'est vrai, le cumul parlementaire et maire n'est plus possible, mais les maires peuvent être aussi conseillers départementaux, régionaux, vice-présidents de leur intercommunalité, souvent au conseil d'administration de l'hôpital. Là, il y a un plafond. 8 900 € bruts par mois maximum. Vous ne pouvez pas toucher plus grâce à vos mandats. Ce plafond est respecté. Un ministre, c'est 10 700 € bruts. On n'en est pas si loin. Et si à côté, vous avez encore le temps d'être avocat, médecin, consultant, là, il n'y a pas de limite. Vous pouvez bien sûr cumuler indemnités et salaires.
Alors, revenons à l'enveloppe stricte pour les maires. Vous nous disiez 900 € net par mois. Ça, c'est dans les petites communes.
Oui, oui. Plus il y a d'habitants, plus l'indemnité est importante. On va rentrer dans le détail. Mais quand je vous dis 900 €, c'est le maximum. En fait, ce qu'on ignore, c'est que pour beaucoup de villages, cette charge pèse lourd. J'ai eu au téléphone le maire de Seffonds, Éric Crézel, 650 âmes, en Haute-Marne, près de Saint-Dizier. Lui, il a réduit son indemnité et celle de ses adjoints. 500 € pour lui, 250 pour eux, pour éviter d'amputer son budget. Autrement, ça fait 50 000 € par an pour sa commune. Là-dessus, l'État ne verse que 3 000 €, me disait-il. Donc, pour avoir plus de sous dans les caisses, il limite ses revenus. Et c'est une pratique courante, selon lui, qui est le monsieur indemnité de l'Association des maires ruraux de France.
Vous avez commencé à parler des adjoints. Ils touchent combien?
Alors, pareil, il y a un barème. Plus la commune est grande, plus c'est important. L'adjoint d'un village touche au mieux 350 € net. On se rapproche des 700 € pour les communes jusqu'à 3500 habitants, comme Étretat. En moyenne, les adjoints touche 60% de moins que le maire.
Est-ce que tous les conseillers municipaux gagnent la même chose?
Non, non. Dans l'immense majorité des communes, un conseiller sans délégation est bénévole. Il peut juste faire rembourser ses frais de garde, ses frais de déplacement. Dans les grandes villes, plus de 100 000 habitants, chaque conseiller touche 246 € brut par mois.
Est-ce que cet argent est imposable?
Alors oui, bonne question. Ces indemnités sont soumises à l'impôt sur le revenu, mais il y a un abattement pour les maires. 1 600 € par mois d'abattement dans les communes de moins de 3 500 habitants, désolé pour tous ces seuils, mais c'est ainsi. Et 700 € pour les autres, c'est pas négligeable.
Est-ce que l'indemnité est la même dans toutes les communes? Est-ce qu'il n'y a que le nombre d'habitants qui rentre en ligne
et
de compte?
Et non, il y a des subtilités. Le point commun, d'accord, par exemple, entre Saint-Nectaire, Morzine, Sancerre et Le Havre.
C'est pas la taille de la commune?
Non, ce sont des stations de tourisme reconnues officiellement par décret et ça change la donne.
Et donc,
parce qu'il y a plus de visiteurs, plus de sollicitations. Et donc, dans ces communes de moins de 5000 habitants, comme Saint-Nectaire, Sancerre, ça permet de doubler l'indemnité. Dans les plus grandes villes, c'est 25% de plus. Majoration aussi pour tous les chefs-lieux, pour les très grandes villes. Et ces bonus s'additionnent les uns aux autres.
Donc bonus pour Édouard Philippe, maire du Havre.
Exactement.
Parce que station de tourisme. Quel est le maire le mieux payé?
Eh bien celui de la capitale. 9 200 € bruts. Puis viennent Lyon et Marseille. 8 300, c'est le trio de tête.
Merci Maxence Lambrec. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous parlions du Havre à l'instant. Trafic ferroviaire interrompu entre le Havre et Yvetot à cause d'un accident de la circulation, une voiture qui s'est retrouvée suspendue sur les caténaires de la ligne Le Havre-Paris. La conductrice légèrement blessée. Pas de train vers Rouen et Paris, au moins jusqu'à 14h. On parle beaucoup des pôles en ce moment dans l'actualité. C'était le cas au début de ce 13-14. Revenons-y un instant avec un homme qui ne cesse de les sillonner depuis 40 ans. L'infatigable explorateur Jean-Louis Etienne, il a repris la mer ce matin à bord de son voilier Persévérance. Il a quitté le port de Christchurch en Nouvelle-Zélande avec une quinzaine de scientifiques, direction la mer de Ross, une zone protégée au large de l'Antarctique. À presque 80 ans, il ne compte pas s'arrêter là, Antoine Liffaut.
Jean-Louis Etienne, ou le premier homme à rallier seul le pôle Nord en 1986, l'année de ses 40 ans, à pied, sans assistance, archive Antenne 2.
Jean-Louis Etienne, l'homme qui est arrivé à pied au pôle Nord géographique, ne parvient pas à repartir, figurez-vous.
Et cap au sud en 89.
Depuis un mois maintenant, Jean-Louis Etienne et ses compagnons longent la péninsule antarctique.
Une traversée aussi de l'Arctique, en ballon, une vie d'aventure, et à presque 80 ans aujourd'hui, il le dit...
Je ne suis pas fatigué, non.
Il y a quelques jours, avant son départ, il présentait son nouveau projet devant un public avec passion.
Vous entendez ? Enfin, c'est rigolo. Et donc, ça enregistre. On va faire un inventaire de la faune de mammifères marins par acoustique.
Avec une quinzaine de scientifiques.
Moi, je me souviens au début, leurs appareils, ils rentraient dans des valises. Aujourd'hui, ça rentre dans des boîtes de chaussures.
Ce Tarnais, qui, adolescent, décroche un CAP de tourneur-fraiseur avant son diplôme de chirurgien et qui campait déjà seul dans les Pyrénées en hiver, prévoit maintenant 4 autres expéditions en Antarctique d'ici 3 ans.
Je dis aux enfants, votre envie de quelque chose, hein, votre histoire, là, vous avez un truc, ça, c'est le capital. Et donc, si vous avez une envie, moi, c'est ce que je voulais faire quand j'étais petit. Mais l'envie, ça ne veut pas dire que c'est facile. Il faut la cultiver, il faut la travailler. Du temps, du travail, de la persévérance.
Et comme à chaque fois, à l'approche des glaces, il dit écouter Eric Clapton, sorte de tradition.
On aimerait bien être sur ce bateau avec lui. Persévérance, Jean-Louis Etienne, rencontré par Antoine Liffaut, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin. Puis, à partir de 13h30, 13h32, on va dire. Trop de logements touristiques. Pas assez pour les locaux. C'est un problème dans beaucoup de communes. Comment faire? On en parle avec nos invités de Saint-Malo à l'île d'Oléron. J'attends aussi vos témoignages, s'il vous plaît. 01 45 24 7000 pour être avec nous si vous avez des difficultés à vous loger, notamment dans les zones touristiques. 13h45, notre feuilleton. Cette comédie musicale consacrée au chanteur prénommé Michel, c'est Radio Michel. 13h50, c'est la France, c'est une chanson. Cyril Petit, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien de Lorient dans le Morbihan à Digoin en Saône-et-Loire en passant par Toulouse en Haute-Garonne, je vous parle Jérôme des micro-forêts urbaines qui poussent un peu partout.
Et avec vous Frédéric, un jazzman.
Le tromboniste Daniel Zimmermann qui sera en concert la semaine prochaine au New Morning à Paris. Avec lui nous écouterons Les Amours Perdus de Gainsbourg, une chanson qui lui rappelle ses propres amours perdus.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
France Inter, 16h-18h, Mathieu Noël.
Pour leur crise de la cinquantaine, certains s'offrent un cabriolet. Lui, il s'est offert un Goncourt. Devenu romancier sur le tard, il est aujourd'hui une figure majeure de la littérature française. Ce mardi, on reçoit Pierre Lemaitre pour la sortie des Belles Promesses, dernier volet de sa tétralogie sur les Trente Glorieuses.
Zoom Zoom Zen, tous les jours de 16h à 18h sur France Inter.
France Inter, partenaire du nouveau film d'Olivia Sayas, Le Mage du Kremlin.
Russia needs a different brand, a politician.
Dans les années 90, Vadim Baranov, jeune homme à l'intelligence redoutable, devient le conseiller officieux d'un ancien agent du KGB, Vladimir Poutine.
What interests me is power. We need to inspire fear.
Une immersion glaçante au cœur du système.
No one is safe in Russia.
Le Mage du Kremlin, d'après le roman éponyme, avec Paul Dano, Alicia Vikander et Jude Law, le 21 janvier au cinéma, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt. Le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Les perturbations se suivent et se ressemblent.
Et c'est un balai ininterrompu qui s'anime sur l'Hexagone depuis quelques jours. Aujourd'hui, c'est la Bretagne qui prend le relais. Tout comme, comme sur le sud-est hier, on attend aujourd'hui sur le nord-ouest des cumuls de pluie soutenus, 30 à 50 mm, voire localement 60 mm. Le tout accompagné d'un vent qui souffle par rafale de 90 km par heure. Si Météo France a levé les vigilances orange au sud, elle prévoit d'en déclencher une des 4 heures cette nuit pour un risque de pluie-inondation sur le Morbihan et le Finistère. Les risques de crues sont aussi à surveiller et cet après-midi se déroule encore sous la pluie vers les Pyrénées-Orientales. Mais le temps est à la nette amélioration. Ailleurs, c'est toujours calme, ambiance et parfois même lumineuse, malgré un ciel couvert et des nuages bas persistant dans le nord-est.
Et toujours de la fraîcheur.
Les gelées matinales ont fait chuter les thermomètres. Les températures y plafonneront autour des 3 à 4 degrés dans le nord-est. Il fera 3 à Dijon, Nancy et Strasbourg. Ailleurs, la journée se déroule dans une relative douceur. 7 à 15 du nord au sud, 7 à Dunkerque, 10 à Paris et Toulouse, 12 à Quimper, Albi comme à Châteauroux, 15 degrés à Nîmes.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est l'un des aspects de la crise du logement dans notre pays. La difficulté à se loger dans les régions les plus touristiques, celles où les touristes sont en concurrence avec les locaux et où il est souvent plus rentable pour les propriétaires d'accueillir des vacanciers plutôt que des résidents à l'année. Phénomène accéléré par la popularité des plateformes type Airbnb ou Booking. Et pourtant, il n'y a pas de fatalité. Il y a des solutions dont nous parlons avec nos invités. Michel Parent, bonjour.
Bonjour.
Président de la communauté de communes de l'île d'Oléron, île qui a fait condamner tour à tour les plateformes Airbnb, Le Bon Coin et Booking pour des manquements relatifs à la taxe de séjour avec à chaque fois des centaines de milliers, voire des millions d'euros d'amende. Michel Parent, vous attendez, je crois, aujourd'hui une décision en délibéré.
Oui, qui concerne en effet Booking, qui a fait appel de la condamnation qui l'avait sanctionnée à hauteur de 574 000 euros. Donc on attend confirmation en appel et on attend également pour Airbnb donc leur recours en cassation et pour de sommes encore beaucoup plus importantes puisqu'il s'agit de plus de 8 650 000 euros.
D'accord, mais aujourd'hui pour Booking on est sur un demi-million d'euros si je comprends bien et vous attendez
oui, on est sur 574 000 euros exactement.
C'est ça et on attend la décision aujourd'hui. Avec nous également Véronique Deschamps, bonjour.
Bonjour.
Véronique, vous habitez à Saint-Malo, Bretagne Nord. Vous avez publié à l'automne le récit de votre combat, Habitant les nouveaux invisibles. C'est aux Presses populaires de Bretagne. C'est un livre dans lequel vous racontez votre combat pour faire interdire les locations Airbnb dans votre résidence de Saint-Malo. Vous allez nous raconter, d'autant que vous présentez votre livre ce soir chez vous dans votre commune. 01 45 24 7000 pour vous tous qui nous écoutez et qui souhaitez témoigner. Vous pouvez passer également via l'onglet réagir du site et de l'application Radio France. Michel Parent, vous faites figure aujourd'hui sur l'île d'Oléron de symbole dans cette lutte des petites communes contre les géants d'Internet. Comment est-ce que ça a commencé pour vous ?
Et ça a commencé par de la part d'Airbnb, par le non-respect de la nouvelle législation qui imposait aux plateformes touristiques à partir de 2019 eh bien de prélever la taxe de séjour sur les meublés non classés et ensuite de la reverser à la communauté de communes. C'est ce qu'Airbnb ne faisait pas, ils ont tardé, on leur a dit que ça n'était pas acceptable et puis après, in fine, on a été obligé de les attaquer avec une procédure qui est allée en première instance pour les sanctionner. Ensuite, ils ont fait appel, on a gagné en appel et là, ils engagent un processus de recours en cassation et on attend donc l'avis de la Cour de cassation. Est-ce que le dossier est éligible ou pas et est-ce qu'il sera sanctionné? C'est notre espoir.
Tout cela, ça coûte de l'argent d'engager ces procédures. Vous n'avez pas les moyens d'agglomération qui comptent des centaines de milliers d'habitants. Est-ce que vous avez hésité? Comment s'est pris la décision, Michel Parent? Et au fond, qu'est-ce qui vous a décidé?
Mais je devrais que, comme élu local, confronter une petite île touristique à une plateforme internationale, ça nous semblait un combat qui pouvait être perdu d'avance, mais notre avocat nous a dit non, je suis convaincu qu'on peut gagner. Et on a engagé la procédure en lui faisant confiance et on a gagné en première instance et en appel.
Airbnb dit, bon, effectivement, 2021, début 2022, il y a eu un problème de sous-collecte de la taxe de séjour à Oléron. Mais depuis, on a réglé sur nos propres fonds, on a réglé les intérêts. L'intégralité du montant de taxe reste en dû. On a corrigé ce problème technique, selon Airbnb.
Alors, ils ont corrigé leurs erreurs. C'est vrai que maintenant, ils appliquent la loi. C'était la moindre des choses. Mais ils méritaient d'être sanctionnés pour les manquements donc des deux années. Et c'est cela qui nous a obligés donc à persévérer et à engager une procédure qui nous a été très bénéfique. Et quelque part, ça fait jurisprudence. Ça fait d'ailleurs jurisprudence. Et ça permet aux autres collectivités d'avoir, face aux plateformes, eh bien, un rapport de force plus équitable.
Même si elles ne sont pas très nombreuses à vous avoir suivi dans un combat judiciaire?
Ben écoutez, je le regrette pour elle, hein, parce que le résultat de l'île d'Oléron est quand même profitable, puisque si on additionne les sanctions imposées à Airbnb, au Bon Coin et à Booking, ça représente quand même 10 millions d'euros. Je ne vous cache pas que pour l'île d'Oléron, avec les problèmes de logement que l'on a, c'est une somme qui est importante et positive.
On va venir justement sur l'utilisation que vous pouvez faire de cet argent. Je voudrais me tourner vers Véronique Deschamps à Saint-Malo. Qu'est-ce qui vous a, vous, Véronique, décidé à engager une bataille judiciaire, là encore, contre un géant de la réservation?
Alors, parce qu'en 2016, j'ai été confrontée à une nouvelle copropriétaire qui est même pas devenue ma voisine, mais sans nous prévenir, s'est mise à louer au tourisme de court passage. Et donc ma vie s'est vue transformée du jour au lendemain. Mon havre de paix s'est transformé en hôtellerie, je dirais zéro surveillance. Et à l'époque, on m'a dit, tu ne peux pas t'y attaquer, c'est le pot de fer contre le pot de terre, enfin l'inverse plutôt. Le pot de terre,
pot de fer.
Voilà, et donc je me suis dit, qui combat risque de perdre, qui ne combat pas a déjà perdu. De toute façon, on me décourageait à y aller et j'estime que l'habitant a sa place dans son lieu de vie. Il s'agit là d'un lieu de vie très ancien qui a été épargné des bombardements avec une grosse promiscuité des voisins et du coup j'ai entamé une bataille avec mon avocat, maître Cyril Moncoq, qui m'a dit que ça allait être long, puisqu'il faut resituer le début de la procédure en 2017. Et en 2016, c'est vrai qu'on ne parlait pas beaucoup d'Airbnb. Donc j'étais un petit peu seule contre tous. Et je me suis retrouvée très soutenue par les Malouins, parce que on est habitué à vivre avec le tourisme. Mais maintenant, le tourisme prenait la place de nos voisins. Et j'ai vu les immeubles se vider petit à petit de leurs habitants permanents. Mmh. Et donc là, ça m'a, voilà, pour tenir la longueur de la procédure, Maître Moncoq m'avait prévenu que ça allait être long, j'ai commencé à mobiliser et à interpeller le gouvernement, les élus. Voilà, j'ai été un petit peu dans tous les sens et j'ai médiatisé mon histoire dès 2018.
Et vous avez obtenu gain de cause, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos copropriétaires dans la résidence ne peuvent plus mettre leur immeuble sur ces plateformes ?
Alors, ils ont été condamnés en première instance, ils ont fait appel de la décision, ils ont pris un avocat très médiatisé sur Paris, mmh. et donc la cour d'appel a confirmé la réponse de la première instance, ce qui fait aussi jurisprudence nationale, et qui, enfin j'avais gagné déjà une autre procédure, il y a deux copropriétaires successifs qui ont loué en courte durée et ignorer en fait notre vie. Hein. Et donc le gros problème, ce qui est très difficile, c'est qu'il faut subir le trouble anormal de voisinage pour prouver ce que l'on vit. Donc beaucoup abandonnent. Et donc je suis très heureuse de soutenir des gens qui sont actuellement encore menacés, comme je l'étais, menacée, intimidée, agressée. Et des personnes ont accepté de témoigner sans couvert d'anonymat dans mon livre, justement. Donc mmh. ça va peut-être permettre de prendre conscience qu'il ne s'agit pas simplement de nuisances. C'est vraiment mmh. invivable à venir, à mmh. vivre, de vivre dans un hôtel, mais surtout de voir la population disparaître. Mmh.
La population locale, les résidents qui vivent à l'année. Patrick nous appelle de Gréoux-les-Bains. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Où est-ce que ça se trouve ?
Oui, Gréoux-les-Bains, c'est dans les Alpes, en dessous de Sisteron.
Merci de cette précision.
De Provence.
Nous vous écoutons,
oui, donc,
Patrick.
Moi, j'ai une double expérience. J'ai loué donc à longue durée pendant une dizaine d'années, jusqu'au moment où j'ai eu une locataire qui ne payait pas ses impôts, donc pas ses loyers.
Et elle ne vous payait pas son loyer.
Ses loyers, donc je suis rentré en procédure judiciaire qui a pris un long moment. J'ai dû payer les frais de l'huissier et me rendre jusqu'au tribunal. La personne ne réglait rien du tout. Donc le tribunal m'a donné raison et a condamné la personne à payer les loyers impayés, ainsi que les procédures, sauf que la personne n'était pas solvable. Donc finalement, j'ai dû tout payer. Il a fallu, l'État n'a pas assuré la libération du logement. Donc ça a pris plusieurs mois. Finalement, après appel et menace, la personne est partie en me laissant un appartement fortement dégradé.
Ce que vous nous dites, Patrick, c'est que vous êtes tourné finalement vers les locations de courte durée, c'est ça ?
Tout à fait. Et maintenant, je jouis de cette location longue durée pour mes vacances et je gère complètement. Les personnes partent, me laissent l'appartement dans un bon état. Donc, moi, la location longue durée, je n'y retourne plus.
Merci pour ce témoignage, Patrick, vous qui êtes propriétaire. J'ajoute cette précision aussi de la plateforme Airbnb qui nous dit que la grande majorité des hôtes en France louent leur logement de manière occasionnelle pour compléter leurs revenus. Michel Parent, vous qui êtes le président de la communauté de communes de l'île de comment vous réagissez au témoignage de Patrick qui dit « Moi, je suis propriétaire, la location courte durée, ça me va bien ».
Oh, c'est les témoignages que j'ai entendus, y compris sur l'île d'Oléron. Mais il faut savoir que le problème est beaucoup plus global que ça, et pas celui d'une somme de cas particuliers. La difficulté des communes touristiques, que ce soit Saint-Malo ou l'île d'Oléron, c'est qu'aujourd'hui, le développement des meublés de tourisme nous empêche d'avoir du logement à l'année. On ne peut pas recruter dans les entreprises, on ne peut pas recruter dans les collectivités, dans les maisons de retraite, parce qu'on ne peut pas loger. C'est une situation dramatique qui conduit parfois à la fermeture, et même souvent à la fermeture de classes d'école, voire à la fermeture d'école. Donc c'est un problème global. Mais je dirais aussi à ce monsieur, même si je respecte son témoignage, qu'il y a des systèmes qui sont assurantiels, qui protègent contre les loyers impayés, ou contre les dégradations, qui garantit donc le propriétaire qui loue à l'année aujourd'hui.
Michel Parent, vous allez voir les gens comme Patrick qui sont propriétaires de logements et vous leur proposez maintenant, au nom de la communauté de communes d'Oléron, de leur donner de l'argent pour qu'ils louent non plus à la semaine ou à la nuit, mais pour qu'ils louent leur bien à l'année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ?
Bon, d'abord, c'est une initiative que l'on a plagiée à la commune de Sables-d'Olonne, qui a en effet privilégié donc le transfert de meublés touristiques vers le logement à l'année avec une subvention. Hein, le mot n'est pas négatif.
Combien
une subvention
vous donnez
de 10 000 euros.
10 000
euros. On donne 10 000 euros. 10 000 euros maximum. Ça dépend. C'est un ratio par rapport aux surfaces donc de l'appartement ou de la maison. On donne 10 000 euros pour donc acter un transfert d'un meublé touristique vers un meublé à l'année. C'est une initiative qu'on a lancée donc sur l'île d'Oléron il y a quelques mois.
Ça marche.
Et on a aujourd'hui en préparation 20 logements qui vont passer donc de meublés touristiques logements à l'année. C'est quelque chose de très positif parce qu'on sait aussi que les terrains constructibles sont très rares. Donc là, on ne prend pas une potentialité de terrain constructible. C'est une réponse immédiate parce qu'autrement, quand on construit un logement à l'année, il faut des mois, voire même des années. Donc c'est quelque chose qui est rentable pour la collectivité et positif pour l'île d'Oléron parce que, je me répète, notre problème, c'est loger les gens qui travaillent sur l'île d'Oléron.
Mais vous n'êtes pas dans le combat de Véronique d'interdire la location Airbnb.
Alors non, mais on a quand même la loi Lemeur hein, qui a été votée en novembre 2024 et qui est très positive et qu'on applique sur l'île d'Oléron et dans d'autres territoires touristiques, c'est-à-dire qu'on peut geler le nombre de meublés touristiques, c'est ce que l'on a fait et ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on a un nombre de meublés touristiques par commune et on n'ira pas au-delà et s'il y a des demandes, eh bien il faudra qu'ils attendent que des meublés de tourisme se libèrent ou en tout cas s'effacent pour prendre leur place. Il y a même une autre
c'est combien à l'échelle à l'échelle de la communauté de communes de l'île d'Oléron, le nombre de meublés de tourisme que vous autorisez ?
On en a à peu près 4500. On a 4500 meublés de tourisme, mais il faut savoir qu'entre 2021 et 2024, on a pris 1400 meublés touristiques de plus. Donc ouais, on était en train de saturer le marché. Ouais. Il fallait absolument eh bien, qu'on dise stop et qu'on préserve le juste équilibre qu'il y a entre le tourisme, le meublé de tourisme et la vie à l'année.
C'est une réflexion en France, c'est une réflexion dans beaucoup de pays européens. Véronique Deschamps, je crois que la parution de votre livre a suscité des réactions jusqu'à Venise. Vous êtes en contact avec des élus de Venise ?
Exactement. Je tiens à rectifier que je ne souhaite pas interdire Airbnb, mais légiférer et limiter, comme l'a fait d'ailleurs la ville de Saint-Malo, qui a été attaquée en justice. Effectivement, Marco Gasparinetti à Venise a acté un accord de jumelage entre nos deux associations et déclare nos villes vivent la même urgence. Des quartiers entiers se vident, des habitants qui ne peuvent plus se permettre un logement et un patrimoine immobilier transformé en chambre d'hôte. Venise et Saint-Malo peuvent devenir un front commun de propositions et de solidarité entre les villes qui veulent rester vivantes.
Tout ça pour dire que vous avez des échanges avec eux. Véronique, je vous sors de vos notes. Tout ça pour dire que vous avez des échanges avec eux.
Voilà, nous avons fait un accord de jumelage et nous souhaitons que les voyageurs deviennent nos alliés et nous aident à rester. Voilà, c'est justement qu'on ne soit plus confrontés les uns contre les autres. Nous avons notre place légitime. Le tourisme est aussi le bienvenu. Mais ils ne doivent pas nous chasser de nos villes. Nous finissons par être expulsés de nos villes comme Chamonix, comme Dieppe, comme les îles du Ponant également.
Merci Véronique Deschamps, le temps qui nous était alloué. Et maintenant, écoulé, Habitants, les nouveaux invisibles. Je renvoie à votre livre. Merci à tous les deux. Je salue également Michel Parent sur l'île d'Oléron, 13h47 sur Inter. Une semaine dans leur vie. C'est notre feuilleton en musique, consacrée à Radio Michel, cette web radio devenue comédie musicale, elle est donnée une fois par mois en ce moment au théâtre La Scène Parisienne. Le principe est simple, le spectacle s'appuie sur les tubes des chanteurs prénommés Michel, la troupe est amateur. Deuxième épisode, on installe les décors avant la représentation.
Attends, ça c'est Despère, ça va être dans mon sac. J'ai trop d'affaires.
Alors c'est une partition d'une chanson, je ne dis pas laquelle. On a plus de 100 ans je crois. Et donc la partition, bah, elle a aussi à peu près une centaine d'années. Donc elle a bien vieilli.
Celle-ci, j'ai pris du papier que j'ai vieilli en le trempant dans du thé, en le déchirant un petit peu et tout ça.
Je suis Vincent, je suis comédien et chanteur dans la troupe de Radio Michel. Je joue le rôle de Manu, qui est également le technicien dans la radio. Je m'occupe de brancher les micros, de vérifier les piles, régler les fréquences. De toute façon, on avait déjà fait, on est presque prêt. Donc là, on a juste à brancher pour filer un coup de main et pour avancer un peu plus vite sur la balance qui va pas tarder. Donc on essaie de libérer un peu les techniciens du théâtre pour qu'on démarre plus vite parce qu'on a qu'une heure. Je suis pas technicien, mais bon, dans la troupe, on est obligé d'un peu de savoir faire plein de choses.
tu mets en place les accessoires pour le début du spectacle ? C'est-à-dire tout ce qui va être sur la table quand on commence, qui est déjà donc, le décor d'arrivée, quoi. Alors ce sont des gobelets estampillés Radio Michel qu'on a fait nous-mêmes. Enfin, c'est-à-dire que en fait, j'ai vu faire des stickers et qu'on a collé sur des gobelets en carton de fête qui sont rouges. Et du coup, ça fait bien le job. On avait des idées, on a cherché des choses qui n'ont pas forcément marché. On espérait une vraie grande table studio de radio qu'on a failli acheter. Après, c'était comment on va la transporter si on joue dans plusieurs endroits. On a trouvé des petites tables modulables. Ça convenait, donc on en a pris 6. Ça, c'était pour la première version. Du coup, on a réduit à 4 pour cette version-là. On les a customisées avec des faux disques, des fausses affiches, des faux disques. Et on colle un peu des stickers partout pour que tout soit estampillé Radio Michel, en fait. On a énormément de chance, c'est qu'on a deux amis qui sont Gwen et Fadila qui viennent nous aider, qui sont pas dans le spectacle, mais qui, si elles étaient pas là, on devrait tout faire nous-mêmes. Et ce serait vraiment très compliqué. Là, c'est génial, elles sont là, elles font tout pour nous. C'est un confort incroyable.
De la musique et de la lumière, une vibration qui flotte dans l'air, une émotion qui monte et se libère.
Je m'appelle Gwen, je suis là ce soir parce que je m'occupe de la régie plateau, en fait. Donc de les aider derrière pour les changements de costumes, les changements de décors, tout ce qui doit être un petit peu rapide. Parfois quand on a des problèmes pas prévus, courir un peu partout pour essayer de les résoudre. Donc voilà, je suis là pour ça. J'ai toute une liste de tout ce qu'il y a à mettre pour vérifier qu'il y ait tous les accessoires sur le plateau. Parce qu'une fois que les comédiens sont sur scène, parfois ils ressortent pas. Et s'ils ont un accessoire dans le jeu et que c'est pas sur le plateau, bah, c'est plié, il faut qu'ils improvisent, quoi. Donc le but de cette liste, c'est de vérifier qu'on a tout de chaque côté de la scène, d'autant plus qu'on peut pas passer derrière la scène, donc si c'est pas du bon côté, c'est pareil, c'est foutu. Donc c'est vraiment ça qui est nécessaire. Dans toutes les mises des comédiens, on est sûr qu'ils ont tous les accessoires, et sur le plateau qui est tout. On est arrivé en cours de route, ils avaient déjà fait un an de Radio Michel, et moi je suis arrivée en cours de route pour les accompagner donc dans la mise en scène et la mise en corps, parce que j'aime ça, et puis après bah, de pouvoir être avec eux derrière la scène. Donc en fait je n'ai jamais vu le spectacle sur scène en dehors de répétition, puisque je suis toujours derrière avec eux, dans les petites mains dans l'ombre, pour leur faciliter le show et qu'ils puissent se concentrer au maximum sur ce qu'ils ont à faire.
Clémentine Sabrier pour ce feuilleton, la suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h51. Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de mini-forêts.
Et je vous emmène, Jérôme, à Lorient, dans le Morbihan. Mercredi dernier, rue du Calvaire, les premiers arbres d'une nouvelle micro-forêt urbaine ont été plantés au son de la cornemuse. Ce projet, retenu dans le cadre du budget participatif de la ville, prévoit de faire pousser 1300 arbres dans un espace de 500 mètres carrés clôturé. C'est l'équivalent de deux terrains de tennis et 10 fois moins que la taille minimale d'une forêt classique. Alors, il y aura des érables champêtres, des chênes, de l'arbousier, de l'églantier, des tailles Ouest France. Surtout, les arbres sont plantés très proches les uns des autres. 3 par mètre carré, c'est beaucoup plus qu'à la normale. C'est la méthode Miyawaki.
Qu'est-ce que c'est que cette méthode Miyawaki ?
Elle tire son nom du biologiste japonais Akira Miyawaki, né en 1928 et mort en 2021 après avoir planté plus de 1000 micro-forêts. Cette méthode de reforestation consiste à planter un maximum d'arbres d'essence locale sur un minimum d'espace. Sandrine Brigaud, hydrogéologue et enseignante à l'Université de Lorient, explique « En plantant 3 arbres par mètre carré, la croissance est 10 fois plus rapide, la densité va augmenter, le développement racinaire des arbres. » Alors Jérôme, en amont, le sol doit être bien fertilisé, on arrose au début, puis on laisse faire la nature. Selon le réseau spécialisé Tela Botanica, au bout de 3 ans, la mini-forêt est considérée comme autonome, au bout de 20, mature.
Quels sont les bienfaits de ces micro-forêts ?
Certains sont indéniables, elles constituent des îlots de nature de proximité, utiles pour l'éducation, le bien-être et la reconnexion des habitants à la nature. Leur mise en place crée du lien social. Et puis, voici aussi ce qu'on en attend : favoriser la biodiversité locale, améliorer la qualité des sols, limiter les îlots de chaleur, faciliter l'infiltration de l'eau. Mais l'étendue des effets à moyen et long terme et les fonctions écologique des micro-forêts urbaines reste encore à évaluer. Oui. Ainsi, une grande étude nommée Sylva Dense est en cours, coordonnée par l'association Plantes et Cités avec des universités et organismes scientifiques. Résultats attendus après 2027.
Bon, vous nous dites qu'on en trouve partout. Est-ce qu'on a un compte précis? Combien il y en a?
A priori, environ 400 au moins selon les derniers chiffres de Plantes et Cités, mais ils datent de 2022. Dans les médias, on en parle aujourd'hui 4 fois plus qu'en 2020, m'indique la plateforme de veille Tagedé, signe Jérôme que ça pousse par exemple à Laxou en Meurthe-et-Moselle, à Calais dans le Pas-de-Calais, à Ferney-Voltaire dans l'Ain ou à Paris. Et ça va même au-delà des villes. En décembre, patients, familles et soignants ont planté une micro-forêt au cœur du parc de l'hôpital Garonne au CHU de Toulouse. Des entreprises s'y sont mis aussi et puis à la cité scolaire de Digoin en Saône-et-Loire, près de 1250 arbres viennent d'être plantés par des jeunes arboriculteurs en herbe. Et d'autres ont aussi des projets, Jérôme, mais chez eux et à la campagne. C'est le cas de Virginie qui habite un hameau à Lorigné dans les Deux-Sèvres. Elle veut transformer 80 mètres carrés de son jardin en micro-forêt fruitière avec 240 arbres d'essences différentes. Les plantations sont prévues le mois prochain. Je la cite, c'est ma façon d'agir pour la planète ici chez moi, dit-elle au Courrier de l'Ouest. On n'a pas besoin de milliers de mètres carrés pour faire bouger les choses.
Merci Cyril Petit. Chaque mardi dans ce 13-14 de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est un tromboniste de jazz, Daniel Zimmermann, que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric.
Daniel Zimmermann qui sera en concert le 27 janvier au New Morning à Paris, où il présentera Snapshot, son nouvel album. Et c'est de Serge Gainsbourg qu'il a souhaité parler, le Gainsbourg des débuts.
Je l'ai découvert à l'adolescence, à 16 ans, et j'avais un musicien avec qui j'ai commencé à jouer, un percussionniste qui était plus âgé que moi, un peu iconoclaste, qui m'a dit « Viens, je vais te faire connaître plein de trucs », parce que j'écoutais que du rock à l'époque, et en fait j'avais envie de m'ouvrir vers le jazz, le funk, les musiques latines, etc. Et dans le lot, il avait mis une compilation de Gainsbourg qu'il avait en vinyle, qui s'appelait Gainsbourg 59 à 63, donc vraiment les débuts. Et moi, à cette époque-là, je connaissais que le Gainsbourg qu'on voyait partout à la télé dans les années 80. J'aimais l'icône rock'n'roll qui représentait, j'aimais bien son côté provocateur. Mais en fait, quand j'ai découvert le Gainsbourg des années 60, j'ai découvert pour moi un autre chanteur quasiment.
C'est quoi qui vous touche davantage chez Gainsbourg que chez Gainsbourg?
En fait, je pense qu'il est tout simplement plus inspiré déjà dans les années 60. Il y a son personnage de dandy, son humour qui ne dépasse pas forcément certaines bornes à cette époque-là. Son rapport aux femmes, que je trouve assez touchant, parce qu'on sent que c'est un être qui est un petit peu en souffrance, qui voudrait plaire, qui voudrait séduire, qui arrive pas. Et ça en fait une espèce de loser magnifique, et j'aime bien ce genre de personnage. Ouais.
Les amours perdus ne se retrouvent plus, et les amants délaissés peuvent toujours chercher. Les amours perdus ne sont pas loin pourtant, car les amants délaissés ne peuvent tout oublier, tous les serments de cœur, tous les serments d'amour.
Alors, cette chanson, Frédéric, s'appelle « Les amours perdus », sortie 1961.
Oui, sur le disque l'étonnant Serge Gainsbourg. Et c'est une chanson qu'a énormément écouté Daniel Zimmermann à plusieurs moments de sa vie.
En fait, au moment de ma première rupture, j'étais très malheureux, parce qu'un premier amour, c'est magnifique, et une première rupture, c'est souvent très mal vécu, forcément. On tombe de très haut, on tombe de son piédestal. Et j'étais un jeune homme avec des aspirations romantiques, un peu. Et en fait, je me suis dit que j'allais sublimer mon malheur en écoutant de la musique triste, et je l'écoutais un petit peu en boucle. Et voilà, c'était une espèce de flagellation. J'avais l'impression d'aller au bout du truc. Maintenant, ça me paraît un peu absurde de se faire du mal comme ça. Mais en fin de compte, peut-être qu'il fallait faire cette expérience. Et puis, en fait, un an après, il y a une deuxième rupture. C'est ça qui est amusant aussi, avec du recul. Tiens, ici, je me refaisais les amours perdus pour bien me mettre la tête au fond du seau. Et en fait, ça m'a pas du tout fait le même effet, puisque... Bah, vu que la première fois, la fin du monde n'était pas la fin du monde, je me suis bien rendu compte que il y avait moyen de rebondir et de vivre autre chose. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait. Donc, finalement, ça m'a plutôt aidé à relativiser.
La deuxième rupture, vous vous êtes consolé plus rapidement que la première?
Je sais pas si c'est à cause du morceau, mais en tout cas, j'ai pas plongé aussi bas. Ça, c'est sûr.
Mes amours perdus hantent toujours mes nuits. Et dans des bras inconnus, je veux trouver l'oubli.
Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous entendez cette chanson-là, elle vous ramène à ces premières ruptures ?
Non, aujourd'hui, quand j'écoute ce morceau-là, je l'écoute comme on écoute un morceau qu'on aime. J'en fais ma lecture aussi. Et puis, en fait, j'en ai enregistré une reprise il y a 3 ans, qui est pas loin d'être un des morceaux les plus réussis de mon disque autour de Gainsbourg. Mais comme je vous l'ai dit, finalement, avec un peu de recul, je le trouve pas si triste.
Est-ce que vous diriez que vous avez été fan, vraiment, de Gainsbourg ? Est-ce que vous aviez des photos de lui dans votre chambre ?
J'ai 2 photos de lui au-dessus de mon lit depuis 20-30 ans. Mais bon, en fait, j'aime pas trop l'idolâtrie, c'est juste que les photos, elles sont assez classes. Elles ont quelque chose d'amusant aussi, un petit esprit mutin. Je les enlève pas parce qu'elles sont bien là, elles sont bien trouvées et un petit peu par flemme aussi de refaire mon intérieur, voilà.
Elles sont toujours au-dessus de votre lit.
Elles sont toujours au-dessus de mon oreiller, ouais.
Et les amants délaissés peuvent toujours chercher.
Les amours perdus, Serge Gainsbourg. C'était donc, Frédéric, le choix du tromboniste Daniel Zimmermann.
Daniel Zimmermann qui présentera Schnapsot, son nouvel album, le 27 janvier au New Morning, concert auquel participera notamment son ami Sanseverino.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Nous marchons avec vous aujourd'hui.
Oui, et c'est une histoire scientifique que va nous raconter notre invité Andreas Mayer.
À tout de suite dans La Terre au Carré.